Vous êtes sur RTL.
5h et un nouveau journal à la une ce matin. D'abord le choc et la consternation à Bayonne après l'attaque hier contre la mosquée de la ville. Deux personnes ont été grièvement blessées. Le tireur, un ancien candidat du Rassemblement National, a lui été interpellé. Le ton monte encore un peu plus aux urgences. De nombreux services ont entamé une nouvelle forme de grève. Une grève des codages, des actes médicaux. On vous explique tout dans un instant. La grève aussi à la SNCF avec toujours de grosses difficultés sur les liaisons entre Paris et l'ouest de la France. Comptez seulement 3 temps sur 10 pour aujourd'hui. Une réunion est prévue tout à l'heure à 14h entre syndicats et direction. Et puis on parlera Noël. Et oui, c'est dans 57 jours. Reportage auprès des bénévoles d'une association qui s'active pour que le Père Noël n'oublie personne. Le temps, Marina, de météo d'ici 5h30, c'est pas un temps de Noël encore.
Non, ciel couvert et des averses à Chauvigny-en-la-Vienne. Pas de neige, hein, une température encore agréable cet après-midi, 16 degrés.
RTL Matin.
Et pour commencer, on part donc ce matin pour Bayonne et ses condamnations unanimes après l'attaque d'hier, attaque contre la mosquée de la ville. Un homme de 84 ans a tenté d'incendier la porte de l'édifice avant d'ouvrir le feu. Deux personnes ont été blessées. Jamais la République ne tolérera la haine. Ça, c'est la réaction d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, sur Twitter. Le secrétaire d'État, Laurent Nunez, lui, s'est rendu sur place.
Je veux bien sûr avoir une pensée pour les deux victimes, dont l'une est gravement atteinte, une pensée pour leur famille. Redire que s'en prendre à un lieu de culte, s'en prendre à une mosquée, s'en prendre à des fidèles, c'est un acte odieux que nous condamnons bien évidemment avec beaucoup de fermeté. C'est un acte qui ne peut pas avoir sa place dans notre République, qui garantit la liberté de culte, la liberté de croyance. Les musulmans de France doivent pouvoir exercer leur culte en toute sécurité. L'État sera bien évidemment toujours à leur côté pour garantir cette sécurité dans l'exercice du culte et dire que nous serons toujours à leur côté pour rejeter toutes les haines d'où qu'elles viennent.
Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, est sur place. L'émotion est d'autant plus forte qu'il n'y a jamais eu le moindre problème avec la communauté musulmane de Bayonne. C'est ce qu'indiquait hier le maire de la ville, Philippe Demaria.
Oui, des policiers gardent le portail de la mosquée. On aperçoit les traces de la tentative d'incendie au bas de la grande porte et sur le parking. Abdelatif Boutati, le président des musulmans du Pays Basque, est incrédule. L'ancien international de rugby mesure la gravité des faits.
C'est sûr qu'il y avait la volonté de tuer. Il y a deux blessés, deux personnes âgées qui viennent habituellement à la mosquée. Je suis vraiment choqué. On n'a jamais rien eu ici, mais là, c'est très grave.
Pendant l'interview, deux hommes s'avancent avec un bouquet de fleurs à la main.
Merci.
Ouais, ça fait chaud au cœur, ça montre qu'il y a des gens encore de bon cœur.
Patchy vient justement de déposer son bouquet.
Celui qui veut croire, il croit, il n'y a pas de souci. Celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas. Ça se passe dans le respect de chacun, comme on dit, coloré, goustiac, et toutes les couleurs. C'est comme ça que ça doit se passer.
Dans le quartier, c'est la consternation choquée. Françoise a entendu les coups de feu dans son jardin. Elle avait visité la mosquée en 2016, juste après l'attentat de Nice.
On a eu un moment d'échange, ils nous ont expliqué certaines choses. Et ça a été très convivial. On doit avoir de la tolérance et avoir le droit de prier chacun devant Dieu qu'on veut, sans faire de violence.
Et une salle de prière a été mise à la disposition des fidèles de la mosquée de Bayonne, le temps de l'enquête.
Un reportage signé Philippe Demaria pour RTL à Strasbourg. À présent, les premiers résultats de l'autopsie pratiquée sur le corps de Sophie Letanne. On en sait un peu plus sur les circonstances de la mort de la jeune fille. Impossible, en revanche, pour l'instant, de faire un lien direct avec le principal suspect, Yannick Collant.
Le corps de Sophie Letanne était dissimulé dans un tumulus de 3 mètres sur 3 dans la forêt de Grendelbruch. Il était recouvert de branchages et de pierres pour passer totalement inaperçu des randonneurs. À l'intérieur de ce tumulus, les enquêteurs ont découvert une fosse avec un squelette, des ossements qui portent la trace d'une intervention humaine. Yolande Renzi, la procureure de Strasbourg.
L'examen de ces ossements a également révélé que la tête de fémur présente ce que les experts appellent une section instrumentale, c'est-à-dire une section nette et franche, réalisée avec un instrument dont je vous dis tout de suite qu'il appartiendra aux seuls experts d'en préciser la nature exacte.
Car les enquêteurs vont comparer ces traces avec la scie couverte de sang retrouvée dans la cave de Jean-Marc Reiser, le principal suspect dans cette affaire, dont le portable avait justement borné dans cette forêt de Grendelbruch, juste après la disparition de Sophie Letanne.
Récit signé Yannick Collant. La colère aux urgences et le ton monte encore un peu plus après 7 mois de grève et alors que les députés s'apprêtent à voter le projet de budget de la sécurité sociale, certains services ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Ils ont entamé une grève des codages. En clair, ils assurent les soins mais n'effectuent plus les tâches administratives qui permettent à l'hôpital de facturer à la Sécurité sociale. C'est le cas notamment à Clermont-Ferrand où s'est rendu Guillaume Frixion pour RTL.
Oui, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le mot d'ordre a été très suivi au service pédiatrie du CHU de Clermont-Ferrand.
On est 44 pédiatres, il y a 44 médecins qui suivent le mouvement.
Alors parce que le professeur Étienne Merlin, chef de service, veut une prise de conscience rapide, la grève du codage était le moyen d'action le plus simple à mettre en place.
Elle consiste à ne pas facturer les soins qu'on fait comme d'habitude. On ne formalise pas et on ne finalise pas la facturation des soins. Donc pour les patients, ça revient exactement au même. Simplement, il y a de l'argent qui ne rentre plus dans l'hôpital, puisqu'habituellement, dès qu'on fait un soin, ce soin est facturé à la caisse d'assurance maladie qui va payer l'hôpital.
Année après année, les restrictions budgétaires ont fait fuir les nouveaux médecins et usé les praticiens présents. Benoît Boeuf, chef de service de réanimation néonatale, refuse le plan prévu pour que l'hôpital équilibre ses comptes.
Pour réussir, c'est avoir un tiers d'activité supplémentaire et réduire les charges de deux tiers. Les charges, c'est essentiellement les charges liées au personnel, donc compression du personnel.
Alors les grévistes ont mis en ligne une pétition avant de se réunir en Assemblée Générale le 29 octobre prochain, avec une possible grève de codage élargie aux autres services hospitaliers.
À Clermont-Ferrand, le reportage de Guillaume Frixon. Et hier, sur RTL, Emmanuel Macron a promis de remettre des moyens pour l'hôpital. 200 à 250 millions d'euros, selon nos informations, est suffisant. On posera la question tout à l'heure à 6h15 à notre invité Christophe Letalec, aide-soignant et vice-président du collectif Interurgence, un collectif qui manifestera aujourd'hui aux côtés d'autres mouvements devant le ministère des Finances, alors que les députés, je vous le disais, doivent voter le projet de budget. Et vous, comprenez-vous ce mouvement? Si vous êtes à l'hôpital, que vous avez récemment fait l'expérience d'un passage aux urgences ou que vous y travaillez, appelez-nous, racontez-nous votre quotidien. Pierre-Louis vous attend au 3210. Attention aussi encore aujourd'hui, si vous devez prendre le train, encore de grosses perturbations sur les liaisons entre Paris et l'ouest de la France, seulement un train sur trois. Les cheminots du centre de maintenance de Châtillon poursuivent leur mouvement de grève. Une réunion est prévue aujourd'hui. Aujourd'hui, entre syndicats et direction, Anas travaille dans ce centre qui gère justement les TGV Atlantique.
Madame Cazenave, qui est directrice de l'axe, elle est en train d'insulter et de cracher sur ses agents. Elle ferait mieux d'essayer de prendre son temps pour discuter, pour essayer de trouver une solution, plutôt que d'essayer de continuer à salir l'honneur et la dignité de ces agents-là, de faire croire que les gens sont en grève pour une question de remboursement des jours de grève. Enfin, c'est complètement mensonger. Il faut arrêter de cracher sur ces grévistes. Ils ne font pas grève pour le remboursement de ces jours de grève. Sinon, moi, je le dis, ne nous croyez pas sur parole. Demandez à Madame Cazenave de montrer le point où il est demandé spécifiquement par l'Assemblée générale des grévistes de rembourser les jours de grève. Ce n'est pas le cas du tout. C'est une honte, c'est une infamie ce qu'elle est en train de faire.
Des propos recueillis pour RTL par Mourad Djabari. Un petit avant-goût de Noël aussi ce matin. Ouais, oui, il approche. C'est dans un peu moins de deux mois.
Bon, j'exagère un peu.
57 jours précis. Non, pas encore. Mais mon fils commence à évoquer la question.
Les enfants, ils pensent toujours très longtemps à l'avance.
Bon, en tout cas, à Strasbourg, ça y est, le sapin, vous savez, ce sapin gigantesque, un 32 mètres de haut, 10 tonnes, eh bien, il a été installé hier, place Kléber, là où a lieu, où aura lieu, comme chaque année, le marché de l'OL. Les associations, elles aussi, se mobilisent à l'image de Dons Solidaires qui, depuis 10 ans, récupère les jouets invendus auprès des grandes marques pour les redistribuer aux plus démunis. Les bénévoles n'ont plus que quelques semaines pour dispatcher ces jouets aux quatre coins de la France. Résultat, comme les lutins du Père Noël, ils s'activent.